Bienvenue dans Art Interview sur Art District, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel, qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la traduction audiovisuelle à l'occasion de la diffusion d'un documentaire sur No Life intitulé « Traduction audiovisuelle de l'ombre à la lumière » réalisé par Serge Gallo qui est avec moi aujourd'hui et avec, vous allez voir, trois autres personnes, justement traducteurs audiovisuels également. Ce documentaire donc va être diffusé sur No Life vendredi 24 mars à 19h, juste après le magazine de cette chaîne qui s'appelle 101%. Alors justement, voilà, pour rentrer un peu dans l'univers de ce métier méconnu et qui pourtant est extrêmement nécessaire donc à la construction d'un film, d'une série télé par exemple, hein, c'est vraiment l'univers du cinéma et de la télévision, des métiers de l'ombre. Alors Serge Gallo, vous êtes réalisateur de ce film, je m'adresse à vous en premier. J'aimerais déjà dire que vous avez voulu rendre hommage au métier de la traduction audiovisuelle à travers ce documentaire, un métier qui, donc en tant que vous-même, en tant que traducteur audiovisuel, un métier qui est dans l'ombre et trop peu connu.
Trop peu connu, ce sont des professions complètement éclatées avec des intérêts différents, des âges très différents, mais on a quand même la chance d'être fédérés par l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel qui fait un boulot remarquable pour nous faire connaître du grand public. Et j'ai voulu avec ce film offrir à la tasse ce que j'appelle un couteau suisse, c'est-à-dire un film tout en un de vulgarisation grand public pour amener au grand public de manière très facile à comprendre les coulisses de nos métiers et montrer ce qui se passe avant. Un domaine qu'il connaît très bien, qui sont les voix de doublage. Et souvent, on nous confond avec les comédiens qui font les voix de doublage. Alors qu'on fait pas du tout ça. On fait un métier considérable, en coulisses, en silence, avec souvent beaucoup d'humilité. Et c'est un métier qui est peu reconnu déjà des diffuseurs, de nos clients prestataires, qui sont souvent les métiers de post-production et qui doivent aller vite pour gérer du flux, et qui est très très mal connu du grand public, avec beaucoup de confusion. Et il était temps de faire connaître ce métier.
Alors l'ATA, c'est l'association des traducteurs et adaptateurs audiovisuels. Alors justement, Serge Gallo, on est avec vous, mais aussi avec vos collègues, on pourrait dire ça comme ça. Donc à côté de moi, Maï Boiron, enchantée, vous êtes traductrice audiovisuelle. Vous allez nous parler justement de votre métier, de la différence entre les sous-titrages et le doublage, par exemple. Également, donc je suis avec Juliette Delacroux. Vous êtes présidente justement de l'ATAA. Vous allez nous parler du rôle justement de cette association pour les métiers de la traduction audiovisuelle. Et Christophe Ramage, également traducteur audiovisuel et membre du conseil d'administration de l'ASCAM. Donc je vous remercie tous les quatre d'être avec moi aujourd'hui pour cette émission. Serge Gallo, donc vous nous avez présenté ce documentaire, un documentaire où vous apparaissez, Maï Boiron. Alors expliquez-nous, finalement, le public ne connaît pas vraiment ce métier. Qu'est-ce que vous faites concrètement et c'est quoi la différence entre un sous-titrage, un doublage, un voice-over ?
Alors personnellement, je pratique uniquement le sous-titrage et le doublage. Le sous-titrage consiste donc à adapter les dialogues d'un film d'une façon suffisamment concise pour pouvoir être lu confortablement par le spectateur. C'est une forme de traduction qui consiste à résumer le mieux possible les idées, les différentes idées exprimées, qui est rendue plus compliquée évidemment quand le rythme du film est rapide. Le public ne se rend pas forcément compte, on nous reproche souvent de ne pas tout traduire, mais si nous traduisions tout, ce serait absolument illisible. Donc il est indispensable de choisir parfois les idées essentielles pour les traduire, et on est obligé de faire des choix et des compromis. En doublage, c'est différent. La contrainte principale est le synchronisme avec, bien sûr, la bouche, les fermetures, ouvertures de bouche, mais également le rythme général de l'élocution, d'un phrasé, du corps de l'acteur, du regard même, des gestes, etc. Et on passe des heures et des heures à traduire ce que les comédiens français ensuite vont pouvoir jouer en rythme, Oui. De façon synchrone.
C'est-à-dire que voilà, vous écrivez le texte qui sera ensuite lu par un comédien français. Et ce qui est très intéressant dans ce film documentaire, c'est que c'est un film qui est assez technique. Donc on a vraiment tous les éléments explicatifs finalement sur... Voilà, il faut que la bouche, les lèvres, quand la bouche s'ouvre, ça correspond à une voyelle par exemple, donc... Ou pas, mais en tout cas, ça correspond à un son précis qu'il faut ensuite... Donc, il faut choisir le bon mot en français qui corresponde exactement à cette forme que prend la bouche.
Le mieux possible. Il s'agit évidemment d'une illusion. Donc, le principe, je trouve, est de s'imprégner du rythme. C'est une sorte de musique. Quelqu'un qu'on appelle un détecteur nous prépare, en quelque sorte, la portée sur laquelle on va écrire les notes. Enfin, c'est une comparaison que je fais souvent. Et chaque phrase est comme une phrase musicale qu'on va essayer de reproduire en français. Donc effectivement, certains mouvements de bouche sont particulièrement voyants et on essaye de les respecter le plus possible. Mais c'est surtout une question de rythme et d'appui. On appelle ça les appuis. Donc les choses, le rythme se voit à l'écran et c'est ça que la parole doit accompagner.
Christophe Ramage, vous êtes évidemment également traducteur audiovisuel. Vous faites la même chose que Maï Boiron ?
Alors, pas tout à fait. Je fais du sous-titrage également comme Maï et je fais de la voice-over. Donc la voice-over, c'est ce que vous voyez en général dans les reportages et les documentaires. C'est-à-dire que quand un intervenant s'exprime, vous allez commencer à l'entendre parler dans sa langue. Puis une voix française va se superposer à ce qui est dit, et théoriquement le français finit de parler, vous entendez la fin du discours du locuteur d'origine.
Alors typiquement c'est plutôt pour les documentaires.
Documentaires et reportages essentiellement, absolument. Donc du point de vue de la technicité dont parlait Maï par rapport à l'utilisation du logiciel de sous-titrage ou de la technique de synchro labiale, de ce point de vue-là, la voice-over est plus simple. La technicité se porte en fait sur la traduction proprement dite, puisque qui dit documentaire, reportage, dit en général des intervenants qui sont très calés dans leur domaine, quel qu'il soit. Ça peut être un historien, ça peut être de la vulgarisation scientifique, ça peut être aussi un film, par exemple, sur l'histoire du manga. Et il va falloir systématiquement s'adapter au vocabulaire, trouver le vocabulaire technique qui correspond, quel que soit le sujet. Donc ça nécessite beaucoup de recherche en amont de la traduction proprement dite pour être au plus près du vocabulaire et du discours que la personne aurait si elle s'exprimait en français face à des spécialistes ou des gens auxquels elle voudrait expliquer ce qu'elle-même fait.
Oui, c'est vrai qu'on ne s'exprime pas forcément de la même manière d'une langue à une autre. Donc il y a aussi cette adaptation. C'est un métier enrichissant pour vous. Vous apprenez à chaque film, à chaque documentaire, plein de choses.
D'autant qu'on aborde... On finit par avoir un petit peu des domaines de compétences, on va dire, d'une certaine manière. Je sais que moi, par exemple, je fais beaucoup de vulgarisation scientifique, technique, historique. Donc on finit par croiser plusieurs fois certains domaines.
Donc vous vous spécialisez aussi dans des domaines ?
Pas proprement parler, mais disons que l'habitude venant, c'est pour faire une traduction, enfin ça paraît une évidence, mais on traduit forcément mieux si on connaît le domaine sur lequel on travaille. Donc dès l'instant que c'est votre première traduction, vous avez tout à découvrir. Donc forcément, la porte est plus grande ouverte au risque de commettre des erreurs. Quand c'est la 30e émission sur le même sujet, au sens large, je veux dire l'aéronautique par exemple, ben, vous avez quand même un bagage préalable qui va vous permettre d'orienter tout de suite votre travail dans la bonne direction et d'éviter les chausse-trappes dans lesquelles vous seriez tombé si ça avait été votre premier boulot. Donc il y a une espèce de spécialisation de cette manière-là, mais en théorie, non, on est spécialiste de rien, on est censé savoir entre guillemets tout faire, ce qui est une fiction pour le coup, on en parle, c'est le sujet d'aujourd'hui, ça personnellement ne me paraît pas possible, mais on a une palette quand même relativement large.
Alors ce que j'ai remarqué également dans le film, vous en avez touché un mot juste avant, Maï Boiron, en fait effectivement, quand on regarde un film sous-titré, donc les sous-titres ne correspondent pas de manière précise en fait au phrasé anglais, vous tirez l'essence, une idée, pour faire des sous-titres beaucoup plus courts, et est-ce qu'on aurait peut-être l'impression de rater un peu quelque chose du coup du film anglais, par exemple dans le cas où c'est un film en anglais sous-titré en français.
Oui, fatalement, je crois que la perte d'une partie du discours est un petit peu le défaut du sous-titrage. Mais quand il est bien fait, Un bon traducteur doit vraiment réussir à tirer le jus de ce qui est dit et d'en garder l'émotion, l'humour. Enfin, il y a quand même le moyen de faire quelque chose proche de l'exhaustivité. Alors bon, oui, bien sûr, il y a un petit peu de perte, forcément. Surtout quand le film est rapide, c'est ce que je disais. Ça dépend du rythme du film. Mais voilà, après, on a les voix originales, on a l'émotion originale, on entend les accents, les différentes couleurs linguistiques qui peuvent s'exprimer, même si on ne comprend pas la langue, on ressent des choses à travers ça, et je trouve ça quand même assez précieux. Et le sous-titre est un soutien qui vient compléter la compréhension aussi inconsciente qu'on a de la langue, même en chinois, en japonais, on ressent des choses, hein, entendre les voix s'exprimer.
En tout cas, votre talent, voilà, c'est ça, c'est de vraiment faire véhiculer l'esprit, l'idée, l'émotion d'un film. Et j'ai vraiment découvert, moi, personnellement, et je pense que les téléspectateurs vont découvrir ce métier donc sur nos lives à 19h ce vendredi 24 mars, j'ai découvert que c'est un métier d'une précision excessive. Il faut vraiment beaucoup travailler, ce sont des heures et des heures. Hein. Il faut se rendre compte que pour justement faire une traduction qui soit tout à fait qui passe en fait hein, même auprès du public, c'est des heures de travail. Combien d'heures par exemple pour un long métrage?
Pour un long métrage, j'ai jamais vraiment calculé précisément, mais je dirais qu'une dizaine de jours sont nécessaires pour faire son premier jet et puis le relire, y revenir. Parfois on travaille à deux dans un second temps pour se relire, avoir un deuxième cerveau qui puisse aussi travailler. Le client parfois intervient pendant ce qu'on appelle la simulation, on lui présente notre travail et là aussi on passe 5, 6, 7, 8 heures parfois à discuter d'un terme, d'un choix qu'on aurait pu faire qui ne lui plaît pas, mais on lui explique et puis on discute, on négocie. Enfin, les gens ne se rendent pas du tout compte de ce travail-là. C'est quelque chose de considérable et qui est très important pour arriver à un travail juste, lisible, confortable et puis qui rende l'émotion et l'esprit du film et l'humour, etc.
En moyenne, si je peux me permettre, en moyenne, on considère que en tant que téléspectateur devant votre télévision ou dans une salle de cinéma, vous avez visionné 5 minutes du film en sous-titrage. Ça correspond en gros à une demi-journée de travail. Donc après, vous faites le rapport sur la durée totale de ce que vous êtes en train de regarder. Ça vous donne une idée de... C'est approximatif, mais en gros, c'est sur cette base-là qu'il faut raisonner.
Serge Gallo, vous vouliez intervenir sur cette question.
Je voudrais dire que ce qui donne toute la fraîcheur de ce film, c'est justement que ce que mes collègues sont en train de dire, moi je ne le savais pas au moment où je suis arrivé pour les filmer chez eux. Rien n'a été préécrit, ça s'est fait vraiment à l'arrache. J'ai filmé, j'ai appris en même temps qu'ils disaient à la caméra, j'ai vraiment appris leur métier. Parce que moi, en traduction audiovisuelle, je ne traduis ni pour sous-titrage ni pour doublage. Je fais de la traduction de scénario de films pour le cinéma. Et je fais, comme Christophe, de la traduction en voice-over pour essentiellement des documentaires pour les télévisions. Mais tout ce qui est la partie sous-titrage, la technique du doublage, je ne la connaissais pas. Je suis arrivé et c'est un film qui s'est tricoté petit à petit avec ce que j'engrangeais de mes collègues. Et le fil conducteur, bon, on aurait pu faire une voix de narration, on ne l'a pas faite, mais j'ai dressé un fil conducteur à partir des redites ou des choses qui se croisaient, etc. Et on passe comme ça, de manière extrêmement fluide, d'un interlocuteur à l'autre. Et on a vraiment l'impression de suivre sur 52 minutes une histoire qui nous embarque dans les coulisses et qui va nous apprendre ce que c'est que la traduction du visuel. Mais voilà, je voulais dire, rien n'a été écrit à l'avance et ça a été une aventure formidable. C'est d'arriver chez les copains, les collègues, et de dire, dites-moi ce que vous avez à dire, je me débrouille après au montage. Voilà.
Alors Juliette Delacruz, maintenant je me tourne vers vous. Vous êtes donc présidente de l'association des traducteurs et adaptateurs audiovisuels, également traductrice audiovisuelle. Après tout ce qu'on vient d'entendre, on comprend vraiment que les traducteurs audiovisuels sont des auteurs. Est-ce qu'ils ont le statut d'auteur?
Tout à fait. Ce qu'on traduit est considéré comme des œuvres de l'esprit. C'est pour ça qu'on a le statut d'auteur et qu'on touche des droits à chaque diffusion aussi, que ce soit au cinéma, à la télévision, sur DVD, etc. Voilà, c'est une spécificité par rapport aux traducteurs techniques, mais tout comme les traducteurs littéraires, par exemple, qui sont auteurs aussi.
Les traducteurs techniques, c'est quoi exactement?
On dit aussi les traducteurs pragmatiques, c'est tout ce qui est mode d'emploi. Mmh. C'est la traduction du marketing, quand vous avez sur votre votre rouge à lèvres, les petites lignes, etc. C'est toutes ces traductions qui sont vraiment, oui, tout ce qui est mode d'emploi, tout ce qui est touristique, etc. Voilà, qui ne fait pas partie de la traduction littéraire ou de la traduction audiovisuelle.
Alors, quel est le rôle de l'ATAA pour ces corps de métier aujourd'hui ?
L'ATAA a eu 10 ans en juin dernier. À la base, elle s'est créée quand un groupe de traducteurs en a eu assez de baisses de tarifs qu'on leur imposait. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient très solitaires, qu'on leur imposait ça chacun dans leur coin et qu'ils n'en discutaient pas. Donc, ils se sont réunis pour essayer de faire face au laboratoire et à ce qui se passait. Et ils se sont dit qu'il valait mieux faire une association pour avoir enfin une voix. Et petit à petit, des projets se sont greffés et l'association a évolué dans le sens où avant, elle était plutôt dans l'action revendicative, dans le combat à se dresser quand il y avait une baisse de tarif ou quand il y avait des abus. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ce qui nous desservait le plus, c'était le fait que personne n'ait conscience qu'on était là. Le spectateur, généralement, enfin, quel spectateur se pose la question comment le voice-over a été fait, se demande si le comédien improvise ou si son texte est écrit. Quand on discute avec des personnes lambda, on va dire, on se rend compte que généralement, ils n'ont jamais réfléchi à la question. C'est ça qui est impressionnant. Alors qu'ils sont quotidiennement confrontés à notre travail. Dès qu'ils allument la télé, dès qu'ils vont au cinéma, sur Internet, dès qu'ils regardent un DVD, c'est notre travail. Et donc, petit à petit, l'association s'est développée en essayant d'avoir des projets plus dans pour faire connaître au grand public notre travail et faire prendre conscience de son importance.
C'est exactement l'objet du documentaire.
Du documentaire aussi. C'est pour ça qu'on a créé des prix, par exemple, qui récompensent des adaptations remarquables pour le cinéma et pour les séries. Pour arrêter de dire que telle ou telle chose n'est pas bien, mais faire aussi pointer du doigt que telle traduction était vraiment remarquable, et pour faire comprendre, enfin prendre conscience aux gens que ça dessert une œuvre.
Concrètement, comment ça marche? Quelles sont les difficultés de ce métier? Ce qu'apporte ce métier également aux œuvres de l'esprit? Combien y a de traducteurs audiovisuels aujourd'hui en France?
Alors ça, c'est difficile à dire, puisque comme on est freelance et que certains font ça à plein temps, d'autres seulement à mi-temps avec une autre activité à côté, on n'a pas de chiffres concrets. Par contre, d'après nos enquêtes, etc., on estime qu'il y a probablement entre 500 et 700 traducteurs audiovisuels à plein temps en France.
Et alors, il faut que ça couvre beaucoup de langues. Hein. On a parlé de l'anglais, mais enfin, voilà. Est-ce que vous traduisez d'ailleurs, Maï Boiron et Christophe Ramage, d'autres langues que l'anglais ?
Je peux occasionnellement traduire de l'allemand et de l'italien, parce que je les ai pratiqués assez longtemps au moment de mes études, mais ma langue de travail, c'est l'anglais.
Et également l'anglais ?
L'allemand comme l'anglais, pareil.
Et moi, je fais de l'espagnol et de l'anglais.
Et anglais-italien pour moi.
Et anglais-italien. Donc voilà, donc déjà, on a un petit aperçu, mais il y a aussi des langues peut-être plus rares, qui sont, où là, il y a peut-être un manque
Alors,
de traducteurs.
Ce qui est drôle, c'est que déjà, en audiovisuel, les langues citées italien, espagnol et allemand sont considérées comme des langues rares. Ah. Parce que si vous regardez le paysage audiovisuel, 90% de ce qui est diffusé est américain ou anglais. Et de temps en temps, il y a de l'italien, ou une série allemande, ou une telenovela sud-américaine, mais quasiment tout est en anglais. Et je pense que tous autour de ce micro, on peut vous dire qu'on travaille quasiment qu'en anglais. Moi, quand j'ai de l'espagnol, je suis très très heureuse, parce que ça change. Voilà. Donc, et les langues encore plus rares, l'hébreu, l'arabe, le japonais, etc. C'est vrai que du coup, on remarque que les clients ont parfois des difficultés à trouver des traducteurs. Alors, des traducteurs qui pratiquent peut-être, donc là, il y en a beaucoup. Après, des traducteurs audiovisuels qui la pratiquent, il y en a peu. Donc, on a tendance à créer des binômes. On va trouver un traducteur de l'hébreu qui va s'associer à un sous-titreur, etc. Mais c'est vrai que les clients ont plus de mal à trouver dans ces langues-là. Parce qu'il y a tellement peu de travail que qui va se spécialiser dans les films depuis l'hébreu, s'il y en a trois tous les trois ans, enfin voilà, il ne pourra pas en vivre.
Et est-ce que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui de s'orienter vers ces métiers-là? Ou est-ce que c'est une profession qui a quand même un peu de mal? Je crois qu'effectivement, le film, le documentaire est quand même aussi une sonnette d'alarme pour sortir ces métiers de l'ombre et quand même les mettre en valeur. Voilà, donc il y a aussi ce message-là dans ce documentaire.
C'est toujours délicat pour nous d'aller dire aux jeunes « ne faites pas ce métier » puisqu'on le fait. Donc ça paraît un peu hypocrite. Par contre, le message qu'on veut faire passer, c'est que y a beaucoup, beaucoup d'idées préconçues sur ce métier. La plupart des jeunes qui arrivent, moi quand je vais en fac, quand je discute avec des bac plus 1 ou bac plus 2 quand on va faire de la pédagogie, les gens pensent qu'ils vont faire du sous-titrage déjà. Qui vont traduire le prochain Scorsese, voilà, qui vont faire toutes les séries qu'ils adorent. Non, il faut qu'ils aient conscience qu'en débutant, ils vont faire les téléréalités, les telenovelas pourries, les téléfilms, voilà. Il faut qu'ils aient conscience que ce dont ils rêvent ne sera pas à portée de main.
Du Scorsese.
Voilà, voire jamais, pour la plupart. Il faut savoir que les traducteurs qui font du cinéma, c'est 5 à 10% de la profession. Les autres font de la télé et du DVD.
Par contre, voilà. Avec la multiplication des chaînes de télé, on pourrait penser que c'est un métier d'avenir.
Il y a du travail, mais il faut savoir que toutes ces petites chaînes n'ont pas d'argent. Très peu d'argent, donc il y a aussi le problème entre il y a du travail payé correctement. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre. On nous propose beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses que là, nous, autour du micro, on refuse parce que c'est pas assez bien payé. Voilà, donc ça c'est aussi un des problèmes et il faut que les jeunes aient conscience qu'aujourd'hui il y a 5, 6 ou 7 masters qui forment à ce métier et qui envoient sur le marché environ 80 à 100 étudiants par an, alors que je viens de dire qu'on était 500 à en vivre. Mmh. Vous voyez le problème d'offre et de demande.
Oui, on voit bien le...
Voilà.
Sur les 500, il y en a peut-être 80 ou 100 qui en vivent très bien. Le reste, c'est vraiment la petite semaine. Hein. Mmh. Vraiment. Vraiment, ouais. D'ailleurs, Maï défend très très bien la nécessité de se battre pour... dans le film, on le voit à la fin du film, pour ramener un petit peu sur le film. Elle en parle très très bien vers la fin. Sylvestre Ménager en parle très bien aussi. Mais on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal. Les sociétés de post-production vendent aux diffuseurs ce qu'on appelle le PAD, le prêt à diffuser. C'est un package qui inclut toute l'adaptation française, avec les comédiens qui vont faire les voix, l'ingénieur du son qui va mixer, la régie synthé pour incruster à l'écran tout ce qu'on doit voir traduit en français de manière graphique, le Nodal qui va finaliser tout ça et remettre à la chaîne le fichier ProRes ou alors la cassette bêta numérique, etc. Et tout ce personnel est inclus dans le forfait du prêt à diffuser, et de plus en plus, le forfait du prêt à diffuser est vendu et bradé aux chaînes de télévision, qui, elles, n'ont pas l'impression de comprendre qu'il faut quand même maintenir une qualité de français à l'image. Maï en parle beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Je vais lui laisser le micro, parce qu'elle a peut-être des choses à dire là-dessus.
Mais alors, on a déjà fait le tour hein, de beaucoup de questions, de beaucoup d'aspects de la traduction audiovisuelle. Maï Boiron, vous voulez réagir pour conclure à ce que vient de dire Serge Gallo ?
Eh bien oui, effectivement, on constate qu'il y a une petite minorité d'adaptateurs audiovisuels qui vivent bien de leur métier, principalement dans le cinéma, parce que c'est un domaine où on a encore du budget, et voilà, où les gens sont prêts à payer une certaine somme pour avoir une adaptation de qualité, et laisser du temps, du délai, 3 semaines, 1 mois pour faire un doublage, par exemple. C'est des choses qui font rêver beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants qui voient un métier glamour. Alors, c'est une réalité qui est très, très, très limitée. De l'autre côté, on a beaucoup de personnes qui ont du mal à en vivre et qui sont à qui on propose des tarifs scandaleux. J'ai entendu hier parler d'un client qui récupérait des fansubs, vous savez, les sous-titres gratuits qu'on trouve sur Internet en téléchargement, et qui les font remanier par des traducteurs professionnels pour une bouchée de pain, pour 7 euros la minute, ce qui est vraiment un tarif ridicule. Donc j'invite les adaptateurs à refuser ce genre de proposition et les clients à ne pas utiliser de fansubs.
Oui, Julia Delacruz,
j'aimerais tout simplement remercier Serge, qui a fait ce film. Ça faisait des années qu'on en parlait et qu'on prenait pas le temps de se lancer. Et puis, il y a quelques temps, il a dit « Bon, je vais arrêter d'attendre l'ATA, j'y vais ». Et merci, parce que je crois qu'on sera encore en train de discuter « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met une voix de narration ?» Donc voilà, merci Serge. On était parti sur un 20 minutes parce qu'on n'osait pas trop. Il a fini par pondre un 52 minutes. Tout seul, avec les moyens du bord. Enfin, on l'a pas aidé, il dit que c'est un film ATA, mais... Voilà, personne ne l'a aidé, il a tout fait tout seul. Moi, je trouve que c'est un travail formidable, très long. Et merci pour les heures qu'il a consacrées. Et merci d'avoir fait ce film, parce qu'il était temps. Et sans lui, il serait toujours pas là.
Eh bien, à moi de vous remercier également tous les quatre, donc Maïe Boiron, Juliette Delacruz, Christophe Ramage et Serge Gallo. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la traduction audiovisuelle. Donc, on vous invite à découvrir encore plus cet univers à travers votre film Serge Gallo, Traduction audiovisuelle de l'ombre à la lumière, qui est donc diffusé ce vendredi 24 mars à 19h sur la chaîne du câble No Life. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.